Studio Tamani, voici les informations en français.
Après leur dissolution par le gouvernement, l'AEM et l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance réagissent. La première juge la décision illégale alors que le second parle d'excès de pouvoir. La journée mondiale de l'eau est célébrée ce 22 mars sous le thème « L'eau pour la paix » et pour l'occasion, la Direction nationale de l'hydraulique a organisé mercredi 20 mars à Bamako une conférence de presse pour établir le lien entre l'eau et la paix. Les activités économiques des habitants de Koulikoro impactés par les coupures d'électricité, mais certains ont initié des alternatives pour s'en sortir. Voilà les grandes lignes de cette édition. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal présenté par Hamsetou Touré. Je viens de l'annoncer dans les titres. L'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, visée par un décret de dissolution, proteste contre la décision. Ses responsables constitués en comité de crise de l'association l'ont fait savoir au cours d'un point de presse tenu hier jeudi à Bamako. Ils menacent d'observer prochainement des grèves illimitées. Parallèlement, l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, dont la dissolution a aussi été prononcée par les autorités, a saisi la Cour suprême du pays aux fins d'annuler le décret de sa dissolution. Plus de détails avec Ali Cissé.
Dissoute le 13 mars dernier par les autorités maliennes après des violences et affrontements ayant coûté la vie à un jeune étudiant le 28 février 2024 à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, les militants de l'association des élèves et étudiants du Mali AEM sortent de leur silence. Lors de ce point de presse, les responsables de l'organisation estudiantine du Mali AEM ont laissé entendre qu'ils étaient prêts à défendre coûte que coûte leurs droits. Aussi, ils exigent la libération immédiate et inconditionnelle de leurs camarades placés en détention et l'annulation du décret de dissolution de l'association. L'autre dissolution annoncée en décembre dernier par les autorités maliennes est celle de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance. L'organisation se réfère à l'instance suprême de juridiction du pays. Son président, Dr Ibrahima Sango, s'est dit étonné et surpris par cette décision. Il souligne que les dispositions de la loi n'ont pas été prises en compte. À cet effet, après un recours administratif adressé au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation resté sans réponse, il saisit la Cour suprême du pays le 28 février 2024 aux fins d'annuler le décret de dissolution. Dans un communiqué en date du 19 mars 2024, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation instruit au gouverneur de prendre des dispositions nécessaires au respect des actes de dissolution. De fin 2023 à nos jours, au moins 5 associations et organisations maliennes ont été dissoutes par les autorités.
Pour le politologue Soumaïla Lala, les raisons avancées par les autorités maliennes pour dissoudre certaines organisations et associations sont injustifiées, selon l'analyste politique. Les dissolutions d'associations et organisations au Mali constituent un recul de la démocratie et des libertés publiques. Il est joint par Ali Cissé.
Quand vous prenez les cas de la CMAS, de l'Observatoire et des cas orales, les arguments avancés, les griefs reprochés ne sont pas en phase avec la loi de 2004 sur les associations qui énumère comme possibilité de dissolution 5 cas de figure. Les cas de l'AEM peuvent être justifiés légalement, mais pour les autres cas, c'est plus des décisions politiques. C'est pour dire aux organisations de la société civile que toute voix discordante donnerait lieu à dissolution et ce serait un recul des libertés publiques consacré et par la Constitution de 92 et par la Constitution de 2023. Donc aujourd'hui, il est dommage qu'on remette en cause ces libertés publiques pour des considérations politiques personnelles.
S'agissant toujours du même sujet pour certains Maliens, la dissolution de ces organisations de la société civile est une bonne initiative qui permettra de faire respecter la loi, maintenir l'ordre et la cohésion sociale. Pour d'autres, ces dissolutions d'associations ne sont qu'une restriction de la liberté d'expression. Écoutons leurs réactions recueillies par nos correspondants à Yoroso, Tominya, Tombouctou, Youarou et Ségou.
C'est une bonne chose. Si ces partis politiques ou ces associations ne sont pas en règle, il faut qu'elles se mettent en règle ou qu'on les dissoute.
En cette période de transition, je pense qu'il y a certains mouvements qu'il faut surseoir, notamment les activités de certaines associations.
Rien que pour conserver la démocratie, il n'est pas bon de dissoudre les associations.
Si ces associations sont là ils peuvent s'exprimer. Si on leur met barrage, ça ne peut pas aller.
Ici à Ségou, nous pensons que la liberté d'association ou la liberté de créer des partis politiques est garantie par la Constitution. Mais si les associations outre dépassent la loi, ça revient à l'État maintenant de prendre ses responsabilités.
L'AEM était créé pour défendre l'intérêt des élèves, pas pour faire des dégâts.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Partons à présent à Koulikoro où les populations dénoncent les coupures d'électricité. Ils déplorent son impact sur leurs activités génératrices de revenus. Certains ont déjà vu leur chiffre d'affaires à la baisse. D'autres ont cherché des alternatives. Le point de la situation avec notre envoyé spécial de retour de Koulikoro, Juliette Koulibaly.
Ils sont soudeurs, réparateurs d'appareils électroniques, tailleurs et vendeuses de sucreries à dénoncer cette situation dans la ville de Koulikoro. Certains affirment ne pas pouvoir travailler depuis des mois.
Les coupures nous impactent. Je n'ai rien fait depuis le matin.
On n'arrive plus à avoir le pain quotidien.
On n'a plus de la clientèle.
On soutient les autorités dans ce qu'ils font, mais qu'ils règlent les problèmes d'électricité pour que nous, tailleurs, et tous ceux qui travaillent avec l'électricité, puissions faire nos activités.
Nous venons sans rien faire toute la journée.
Faire recours aux appareils rechargeables ou se diriger vers le système solaire, c'est l'alternative trouvée par certains.
J'ai installé un des panneaux solaires pour éviter les dépenses des groupes électrogènes.
J'ai un appareil électronique qui me permet au moins de vendre mes actifs.
Rien ne peut remplacer l'électricité.
Avec les groupes électrogènes, tu ne t'en sortiras pas.
En plus des coupures d'électricité, certains quartiers peuvent passer toute une journée sans eau. Ils invitent les autorités à trouver une solution à cette problématique. Juliette Koulibaly de Koulikoro pour Studio Tamani.
Sur le même sujet, le mouvement Espoir Malikoura EMK invite l'État à trouver une solution à la crise énergétique en diminuant son train de vie, selon EMK, pour sauver EDMSA du désastre. L'administration civile et militaire doit arrêter l'utilisation des climatiseurs, des réfrigérateurs ou autres équipements non essentiels de grosse consommation dans les bureaux, les camps et les internats. Espoir Malikoura propose aussi un audit urgent pour mesurer le trop-plein des ressources humaines et les heures supplémentaires fictives révélées par le rapport du vérificateur général. Autre actualité du jour, la journée mondiale de l'eau est célébrée chaque 22 mars dans le monde. Cette année, le thème porte sur l'eau pour la paix. Les acteurs saisissent l'occasion pour magnifier cette ressource précieuse à travers plusieurs activités. Ici à Bamako, la Direction nationale de l'hydraulique a organisé une conférence de presse ce mercredi 20 mars 2024. Le but était d'informer et sensibiliser les usagers du secteur de l'eau sur les liens entre l'eau et la paix. Le compte rendu est de Fatmata Kodio.
Selon Sekou Diara, directeur de l'hydraulique, le taux actuel d'approvisionnement global en eau est de 71,9%. Il ajoute que l'accès au financement et la protection des ressources restent des défis majeurs liés au secteur.
On arrête la pollution des ressources en eau. Il y a les activités anarchiques d'extraction d'or, les dragages qui nuisent beaucoup à nos cours d'eau. Le second défi, c'est de la mobilisation financière. Nous sommes des acteurs, nous avons vraiment besoin de renforcement des capacités.
Pour la société civile, l'eau est une question essentielle et fondamentale pour les populations. Bourema Tabalaba, directeur de la Coalition nationale pour l'eau potable et l'assainissement, demande aux autorités de s'impliquer davantage pour garantir l'accès universel en eau d'ici 2030.
Nous sommes dans l'ordre, au niveau national, d'un accès de l'ordre de 72% à peu près. Et c'est déjà un effort par rapport à beaucoup de pays. Mais voyez un peu le nord et voyez un peu le centre. C'est des zones qui n'ont pas de l'eau potable. Et nous devons travailler pour y arriver. Si le gouvernement, d'abord, au niveau du budget national, va à l'ordre de 5% de son budget national, et si nous parvenons également à mobiliser des fonds pour faire face, en tout cas, aux questions d'eau et d'assainissement.
Notons que le président de la transition, dans la mise en œuvre de ses œuvres sociales, a réalisé plus de 300 forages pour amoindrir la souffrance des populations dans l'accès à l'eau potable.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Place maintenant à la rubrique Retro Actu avec Assetou Kanté.
Nous commençons cette rétrospective de l'actualité par les tirs d'obus des groupes armés terroristes qui ont visé la zone aéroportuaire et le quartier Château de Gao au nord du Mali. Ces attaques ont eu lieu le 16 mars dernier. Pendant ce temps, dans le cercle de Massina, région de Ségou, plus de 30 villages ont été détruits par des hommes armés non identifiés le 7 mars dernier. Autre actualité, c'est le manque de poissons à Mopti. Selon la direction régionale de la pêche de Mopti, 52 000 tonnes de poissons ont été pêchées en 2023. Mais avant la fin de la campagne de cette année, elle constate une baisse de productivité. Aujourd'hui, les habitants se plaignent des manques accrus de poissons. Terminons par la problématique du sucre local. Le produit est difficile à trouver à Bamako, une situation que déplorent de nombreux consommateurs. Des commerçants grossistes accusent l'État d'avoir exclusivement accordé la distribution du sucre aux importateurs. Les responsables de la DGCCC refutent ces propos. Ils estiment qu'il n'y a pas de rupture de stock.
Retrouvons à présent Imrana Kilumeiga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Imrana. Alors de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir?
Bonsoir Amsetou Gogotouri. Comment se portent les partis politiques au Mali? C'est le thème central du Grand Dialogue de ce soir et nous serons avec Alassane Abba, secrétaire général de la CODEM, Convergence pour le développement du Mali, Nuhun Togo, président de l'ISR, Union pour la sauvegarde de la République, et Boubacar Bokoum, président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté.
C'est noté. Pour réécouter ce journal, appelez gratuitement sur Viamo 37 321. Vous pouvez retrouver également toutes nos productions sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store. Et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Hamsetou Touré. Merci de votre constante fidélité. Dans un instant, le magazine Économie. La part du Mali dans l'exploitation des ressources minières par les sociétés d'exploitation sera désormais de 35%, soit 30% pour l'État et 5% pour les entreprises privées locales. Les exploitations minières dirigées par des sociétés étrangères pourront ainsi contribuer à 20% au PIB, produit intérieur brut. C'est ce que prévoit le nouveau code minier adopté récemment par le Conseil national de transition. Selon les autorités, la mise en œuvre de ce texte apportera plus de 500 milliards de francs CFA par an à l'État. En rediffusion, le magazine Économie de cette semaine revient sur les avantages et les limites de ce nouveau code minier. Il est réalisé et présenté par Moussa Malé Sissoko.
Ces projets de loi portant code minier et celui relatif au contenu local ont été adoptés le 8 août dernier par le Conseil national de transition, CNT. Après l'adoption, le président de la Commission des mines, de l'énergie et de l'eau au CNT a affirmé que la part de l'État passera de 10 à 30%. Hassan Sidibé explique que ce nouveau code minier apportera des innovations, notamment les recherches minières qui s'étendent à 9 ans et l'exploitation des mines à 12 ans renouvelables.
La convention d'établissement est scindé en deux. Une convention pour l'exploration, durant laquelle vous avez droit à des exonérations. Une convention pour l'exploitation, pendant laquelle vous n'avez pas droit à l'exploitation. Et une fois le gisement découvert, l'État peut utiliser l'exonération accordée pendant l'exploration pour prendre ses parts de la nouvelle société d'exploitation.
Hassan Sidibé ajoute que le projet de loi sur le contenu local vise à valoriser et augmenter la participation des entreprises maliennes dans l'exploitation des ressources minières.
La loi sur le contenu local est une loi majeure parce qu'elle met les sociétés maliennes, les privés maliens au cœur de l'exploitation minière. Elle impulse aussi la création d'industries autour de ces activités minières-là.
L'économiste Modibo Mao Makalu affirme que ce nouveau code est plus attractif pour l'État malien, mais peut paraître contraignant, dit-il, pour les entreprises minières.
Dans la mise en œuvre pratique, ça peut poser des difficultés parce que imaginez une entreprise qui a déjà signé une convention avec l'ancien code, le nouveau code ne sera pas rétroactif. Ça veut dire que le nouveau code ne va pas s'appliquer. Mais maintenant, est-ce que les nouvelles entreprises qui vont venir vouloir exploiter de nouvelles richesses dans notre pays vont trouver ce code attractif? Je ne le pense pas, parce qu'il est beaucoup plus contraignant que l'ancien.
L'économiste Ibrahim Mariko, en revanche, trouve ce document avantageux pour le Mali. Selon lui, le pays avait besoin de revoir sa politique de gouvernance du secteur minier pour relancer son économie.
S'il faut cette transition économique, il faut de nouvelles pratiques. Et le code demande la création d'un fonds de réhabilitation des infrastructures routières. Le code demande que l'or brut extrait soit raffiné dans notre pays. L'autre avantage aussi, c'est faire en sorte que les Maliens s'intéressent et s'investissent dans ce secteur, le transfert de technologie.
Modibo Mao Makalu préconise l'augmentation du capital de l'État par les sociétés minières et la multiplication des industries de raffinerie de l'or.
Quand on raffine, on ajoute de la valeur à ce qu'on vend. Valeur ajoutée, mais aussi vous créez des emplois dans ce pays. Et aussi, ça permet de connaître la production. Il faut que l'État monte dans le capital de ces entreprises qui viennent exploiter de l'or. Créer un fonds minier national. Ce fonds minier, les recettes de l'or peuvent aller là-bas. On va financer, faire le suivi des investissements dans ces localités.
La société civile des régions de Kaï, Bougouni et Sikasso plaide pour l'implication des populations locales dans l'exploitation des mines.
Par rapport aux populations, les collectivités locales, je pense qu'il y a une faiblesse de ce côté.
Nous espérons la réalisation de nos centres de santé, la construction de nos routes et résoudre les problèmes d'électricité. Dans la commune de Danou, région de Bougouni, il y a le lithium. Nous demandons de l'emploi pour les jeunes.
Ce projet de loi portant sur code minier devra être promulgué par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Rappelons que le Mali est classé ses 4e producteurs d'or en Afrique. Au moins 14 entreprises minières exploitent de l'or dans le pays. Selon les statistiques, le Mali a produit en 2022 72,2 tonnes d'or.